BFM Business et La Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, les 10h passées de 2 minutes, vous êtes toujours en direct sur l'antenne de BFM Business. C'est les experts pour une demi-heure de débats et de controverses ensemble avec Elisabeth Ducoté, PDG de Tuan, Léonidas Calogéropoulos, PDG de Médiation et Arguments et président des Entrepreneurs pour la République, et François Eckal, fondateur de Fipeco.fr. Je voulais qu'on se tourne vers cette proposition publiée ce week-end, c'était dans le Parisien, dimanche. Pierre Cazeneuve, le député Pierre Cazeneuve, qui propose d'augmenter de 200 euros le salaire net de, tenez-vous bien, 15 millions d'actifs, rien de moins. Alors évidemment, tout cela coûte très cher, il faut transférer le montant des cotisations de tous ces salaires pour les basculer sur d'autres assiettes. Alors lui, il va franco, François, c'est rétablissement de la taxe d'habitation, bim, 25 milliards. Augmentation de la TVA, je ne sais plus s'il propose 1 ou 2 points, mais le point de TVA est à combien ? 12, 13, 14 milliards. 13 milliards, ouais. Oui. Et puis une hausse équivalente de la CSG. Bon, on a de quoi faire sauter trois fois la République avec ça, non ?
On a beaucoup de propositions en ce moment dans le débat présidentiel, pardon. Sur
du le micro s'envole. Bon, voilà, même le micro court en entendant ces hausses d'impôts.
Du type, soit je vais baisser les cotisations patronales d'un côté pour baisser le coût du travail et augmenter de l'autre côté, alors la CSG, la TVA, la taxe d'habitation, voilà, il y a plein de solutions possibles. Soit je vais baisser les cotisations salariales pour donner du pouvoir d'achat aux salariés et augmenter en contrepartie, pareil. Alors la CSG, c'est un peu bizarre parce que ça paraît un peu contradictoire, mais est-ce qu'on va pas baisser les cotisations sociales pour augmenter la CSG? Je comprends pas bien. Si, ça fait permettre de payer les retraités.
C'est un impôt.
Ça permet de faire payer les retraités au passage. Bon, d'accord.
On paye une CSG inférieure au niveau de celui.
Le problème de tous ces débats, c'est que on a un problème de finances publiques énorme. On a un effort à faire qui est de l'ordre de 80 à 100 milliards simplement pour stabiliser la dette en point de PIB. Or, toutes ces mesures...
C'était plutôt sur 120 milliards, alors on n'est plus à 20 milliards près.
On est plus à ça près. C'est des approximations. C'est des dizaines de milliards. Un moment où, par ailleurs, il faut augmenter les dépenses militaires. Si on veut faire passer les dépenses militaires de 2 à 3,5 points de PIB, c'est 45 milliards. Si on veut respecter nos engagements en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près 30, 40 milliards, etc. Donc c'est gigantesque. C'est un énorme effort qui est devant nous. Or, toutes ces réformes, là, proposées, que ce soit pour baisser les cotisations patronales, les cotisations salariales, pour réduire le coût du travail, voilà. Toutes ces réformes, elles peuvent avoir un intérêt. Cet intérêt, il est limité. Typiquement, baisser les cotisations patronales et remplacer ça par la TVA, ce qu'on appelle de la TVA sociale, économiquement, c'est la même chose qu'une dévaluation. Dévaluation, ça marche, ça marche pas, ça dépend. Nous, la France a fait beaucoup de dévaluations dans l'histoire qui n'ont pas servi à grand chose. Il y a des pays qui ont fait des dévaluations, ça a très bien marché. Ça dépend des circonstances,
etc. Ça dépend de quoi,
etc.
Alors, qu'est-ce qui me ferait que ça marche ou pas? Gabriel Zucman s'est exprimé, il est foncièrement contre.
Ça va paraître assez contradictoire, mais pour que ça marche, il faut quelque part que les salariés payent. Donc les dévaluations qui marchent, c'est des dévaluations dans lesquelles le pouvoir d'achat baisse. On voit qu'on y est, c'est un peu contradictoire avec l'autre idée.
Ce que vous nous dites, c'est que ce que le salarié gagne, il va le dépenser en tant que consommateur.
Donc au total, non, ce que je voulais dire quand même, c'est que, voilà, donc, mais à supposer même que ce soit positif, les gains sont limités et le coût politique, il est énorme. Parce que si vous prenez la TVA, si vous dites je vais financer ça par la TVA, pourquoi pas? Mais la TVA, ça a quand même des effets un peu anti-redistributifs. Elle pèse plus quand même sur les
plus modestes. Les plus modestes, c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est injuste.
Donc c'est un coût politique énorme. Moi, je dis aujourd'hui, ce coût politique, il faut l'utiliser. Si vous avez du capital politique, il faut l'utiliser pour réduire le déficit public. Donc nous allons probablement être obligé d'augmenter la TVA. C'est bien possible parce qu'on n'y arrivera pas. Ces 100 milliards, on ne le fera pas uniquement par des économies sur les dépenses publiques. Il ne faut pas rêver. Donc on va être obligé d'augmenter les prélèvements obligatoires. On l'a déjà fait, on a déjà commencé d'ailleurs.
Mais pour combler le trou du déficit, que pour rendre du pouvoir d'achat?
Et bien donc, on ne peut pas tout faire. Oui. On ne pourra pas tout faire.
Pardonnez-moi, François Eckal.
On laisse terminer, François.
Et donc, toutes ces toutes ces idées qu'on a en ce moment. Si on était il y a 30 ans, si on était à 30 ans et qu'on n'avait pas ce problème de finances publiques, j'aurais dit oui. Aujourd'hui, je dis non. Aujourd'hui, on ne peut plus, malheureusement, il va falloir faire des efforts.
Priorité au budget plutôt qu'au pouvoir d'achat. Voilà. Léonidas, vous n'êtes pas d'accord.
Je suis en très amical, radical désaccord. Mais radical désaccord avec François Eckhall. Et pardon de vous le dire, je pense que vos paramètres de réflexion sont faux.
Ils sont pas faux, c'est une perspective budgétaire
non,
sur une situation
faux.
Macroéconomique.
Non, je pense qu'ils sont faux parce qu'ils ne partent pas d'un élément qui devrait quand même nous réunir, c'est comment on crée de la richesse. Et déjà, pour réduire nos déficits, il faudrait qu'on en crée. Alors, il y a deux paramètres qui permettent de créer de la richesse, c'est l'investissement et l'esprit d'entreprendre, et c'est le travail. Et le travail de notre pays est véritablement pénalisé, on ne gagne plus convenablement sa vie avec son travail, le travail est dévalué et la valeur travail est en perdition parce que la valeur accordée au travail a chuté. Et donc, tout cela, nous le payons par une productivité qui est en berne, et cette productivité en berne pénalise la totalité de la chaîne de valeur pour notre pays, et ça va bien entendu dans les déficits. Donc ce n'est pas simplement du bonto comptable de savoir si oui ou non on prend de la TVA pour la remettre dans le salaire. Je vous rappelle d'ailleurs que lorsque la TVA augmente, il y a 100 millions de visiteurs européens, des touristes, qui viennent contribuer par leur consommation à financer notre modèle social, alors qu'aujourd'hui, ils ne financent rien. Donc, mettre 2 points de TVA sur le taux normal, c'est-à-dire non pas sur les besoins
besoins de première nécessité. Il y a un taux de TVA réduit sur les objets de première nécessité.
On ne parle pas du 5,5 qui est le taux réduit pour les produits alimentaires. On parle de la totalité des autres produits qui sont à taux normal. Relever de 2 points ce taux, comme tous les pays scandinaves qui ont un modèle social comme le nôtre, c'est amener de nouvelles ressources au financement de notre système social. C'est redonner du pouvoir d'achat aux salariés, parce que je ne sais pas si on a besoin d'aller chercher 15 millions de salariés, mais en tous les cas, ne serait-ce que la moitié, ça reboosterait le travail et ça remettrait au travail des gens qui aujourd'hui arbitrent plutôt pour les revenus de la solidarité, et ça remettrait notre pays en marche. Donc ce n'est pas que des transferts, c'est mettre du carburant dans la machine travail,
qui est la machine
essentielle pour produire de la richesse dans notre pays.
J'ai redressement des comptes publics à ma gauche, redressement de
la machine
à créer de la richesse à ma droite. Peut-être qu'on peut faire les deux. Elisabeth, du côté, vous, votre position.
Ah, bah, je vais vous donner mon expérience d'entrepreneur et de dirigeant d'entreprise. C'est-à-dire que l'instabilité fiscale, c'est insupportable. Parce que c'est très coûteux pour tout le monde. Mais
L'instabilité fiscale.
Elle est extrêmement coûteuse parce qu'elle oblige à modifier, à négocier, à reconstruire. Elle prend un temps fou. Est-ce qu'elle est vraiment, efficace au bout du compte? Moi, j'en doute, si vous voulez. J'ai toujours un peu peur de ces bonnes idées qui viennent de la part d'esprits certainement très éclairés sur le plan d'une mécanique générale, mais qui n'ont pas mis vraiment la réalité de leur regard sur l'entreprise.
Donc, vous nous dites que vous préférez un système imparfait, mais qu'on connaît bien, dans lequel on a
développer, qu'on améliore
plutôt que le grand soir.
De changer de règle, se dire tout d'un coup on a une bonne idée et on va modifier le vécu de la relation travail à l'entreprise, je trouve que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça amène du doute, ça amène de la négociation difficile, ça amène au bout, est-ce que ça amène une véritable satisfaction? J'en suis pas du tout sûre. Donc moi je suis très très, j'ai beaucoup de doutes par rapport à ces idées qui arrivent de l'extérieur et qui ne sont pas venues voir comment ça se passe dans l'entreprise et comment sont réglés, un groupe de citoyens qui vivent ensemble dans une entreprise. Première chose. Deuxième chose, l'entreprise ne peut pas supporter plus de charges. C'est pas possible. Et donc, c'est autour du déficit public qu'il faut absolument trouver les solutions. L'entreprise ne peut plus. Elle assume, au-delà de ce qui est possible, la charge de contribution, bien sûr...
Le financement de notre sécurité, notre modèle social repose
la valeur,
sur le travail.
Mais aussi dans les territoires, à l'aide à l'enseignement, à l'aide aux scientifiques locales, à l'aide au social local, etc. L'entreprise assume vraiment, fondamentalement, ses devoirs, mais plus ce serait trop.
Ouais.
J'allais vous demander, François.
Ces débats, en fait, derrière ça, il y a des débats sur le financement de la protection sociale qu'on a depuis 30 ans. Il y a 30 ans, j'avais participé à un livre blanc sur le financement de la protection sociale. On avait tous ces débats, hein, les mêmes. C'était exactement les mêmes déjà. Et la conclusion.
Vous nous dites qu'on tourne gentiment en rond depuis 30 ans?
Ah, bien sûr, on tourne. Enfin, on raconte toujours les mêmes histoires depuis 30 ans. Il y a 30 ans, la conclusion que j'avais essayé, que j'avais réussi à. J'avais participé, en tout cas, à ce rapport. Oui. Et la conclusion de ce rapport, c'était. Toutes ces idées de transfert, en fait, de cotisations sociales ou patronales vers TVA. Bon, on avait imaginé, t'as toujours des cotisations, la valeur ajoutée, le BE, le capital, la taxe, les taxes foncières.
Bon, on a tout tripatouillé.
Tout était passé. Mmh. La conclusion, c'était, ça peut avoir un intérêt, mais le vrai problème, c'est qu'on a des dépenses sociales qui augmentent plus vite que le PIB. On a des dépenses de retraite et de santé. Donc, si on n'arrive pas à arrêter cette augmentation des dépenses sociales, ça ne servira à rien. De toute façon, on sera obligé d'augmenter les prélèvements obligatoires. Donc, si vous avez un tout petit peu de capital politique aujourd'hui, c'est la réforme de retraite et la réforme des dépenses de santé qui est encore
plus difficile. Donc, on rejoint avec Leonidas, c'est le travail. Encore une fois, c'est le moteur de la prospérité.
Mais pardonnez-moi, François, mais vous ne pouvez pas dire que depuis 20 ans, on a tout essayé. Depuis 20 ans, la TVA sociale, on n'y a pas touché à ça l'instant.
Ah, mais on a fait la TVA sociale, elle existe déjà.
Pardonnez-moi. Pour ce qui est de la TVA sociale, je vous rappelle que pour le moment, le patronat est unanime, et pardonnez-moi sur ce point, le patronat est unanime à défendre une TVA sociale aujourd'hui, parce que sur la base de la même analyse, que si on veut être capable de retirer des charges sur le travail pour que le travail redevienne attractif, il faut que l'on trouve d'autres sources de financement, d'où cette volonté du monde patronal d'aller vers la TVA sociale. Et pour ce qui est du dérapage incontrôlé de nos dépenses sociales, elles viennent en contrepartie. C'est les vases communicants entre le travail et les dépenses sociales. Je vous rappelle que lorsque l'on ne travaille pas, on vit grâce à de la dépense sociale. Et donc, si on veut que le vase de la dépense sociale se vide et qu'il aille ailleurs, il faut qu'il aille dans des revenus du travail. Il faut rendre le travail plus attractif. Il faut que lorsque l'on a démarré sa vie professionnelle, on ait quelque chose de radical qui ait changé dans sa vie. Que l'on ait de l'espoir, que l'on puisse bâtir une famille, que l'on soit véritablement dans un mouvement porteur. Eh bien, ce mouvement-là s'est cassé dans notre pays. Le travail ne paye plus suffisamment. C'est un élément essentiel. Ce n'est pas comptable, François Hical. Ce n'est pas comptable, la lutte pour de la TVA sociale. C'est véritablement pour remettre, en place la
goût
promesse
du travail,
républicaine.
Quoi, le travail qui paie.
La promesse républicaine, c'est si vous avez fait de bonnes études, vous allez avoir un bon emploi. Et si vous avez un bon emploi, vous allez avoir un bon niveau de vie. Cette promesse-là, elle est cassée, il faut la restaurer.
François, vous disiez une chose très intéressante, c'est comme Patrick Martin la semaine dernière à KPME au micro de BFM Business, c'est que la TVA sociale existe déjà.
Oui,
il y a quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Il dit qu'il y a 50 milliards
de TVA renvoyés, répercutés par l'État des caisses de sécurité sociale et autant d'ailleurs aux collectivités locales. Et ça a été fait en contrepartie de la création du CICE, puis après des allègements de cotisations. Donc c'est la contrepartie.
Oui, mais en gardant le niveau TVA au même niveau, je vous rappelle que dans tous les pays scandinaves, la TVA est à 22 points.
On a un à 2 points d'écart avec la moyenne européenne.
Et c'est le seul taux, la seule taxe sur laquelle la France n'est pas leader. Mais on est au-dessous de la moyenne.
Mais je sais.
Donc là, on a une petite marge de manœuvre.
Je sais, mais on a une marge de manœuvre pour réduire le déficit.
Non, mais
on a une marge de manœuvre, en effet, sur la TVA. On est les recordman de l'Union européenne pour ce qui est des impôts, des
prélèvements sur le travail, et
sur le capital.
Oui.
En revanche, pour ce qui est des prélèvements sur la consommation, on est dans la moyenne.
On est au-dessous de la moyenne. On a voulu être
la TVA ou si on rajoute, parce qu'on a aussi beaucoup d'autres impôts sur la consommation.
Si on veut
réduire le déficit, je suis d'accord. Il ne faut pas l'augmenter, les prélèvements sur le travail et le capital. On en a trop déjà. Ouais. Dans l'absolu, on en a trop. Il reste les prélèvements sur la consommation.
Elisabeth,
on a voulu être un pays de consommateurs. Soyons un pays de producteurs et mettons notre fiscalité en adéquation avec ce projet.
Oui, mais bon, il y a des contraintes.
Contraintes politiques majeures, évidemment.
Emmanuel Macron. Politique.
Pendant ce temps-là, annonce, je cherche le chiffre des investissements records pour 93 milliards d'euros. Alors, il faut toujours faire un peu, fait monter la mayonnaise, le président très souvent autour de ce chiffre, mais 93 milliards d'euros pour Choose France. Ce qui est quand même, on avait commencé, vous vous souvenez, on a commencé à 3 milliards en 2018. C'est aussi l'image d'un monde qui change. Hein. Je veux dire, sur le côté massif des investissements autour de l'IA, c'est absolument incroyable. Allez, il est 10h17, vous êtes toujours en direct sur BFM Business, il est temps qu'on avance. On parle prospérité, en réalité, autour de tous ces sujets. L'idée, c'est quand même comment redresser l'économie de ce pays et en faire un pays plus prospère. En attendant, malheureusement, les derniers chiffres publiés par l'INSEE, c'était en fin de semaine dernière, ne sont pas très encourageants. On pensait que l'économie avait stagné au premier trimestre. Ça n'a pas été le cas. Ça a reculé. L'économie a contracté de 0,1%. Et les indicateurs au deuxième trimestre sont très mauvais, François. Consommation, inflation. La consommation s'effondre, l'investissement tient à peu près, y compris dans l'investissement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle à souligner. Mais globalement, est-ce qu'on se dirige vers une récession technique ? On parle de technique comme si, pour se rassurer un peu en ce moment. Mais est-ce qu'on se dirige vers une récession ?
C'est possible. Après, bon, entre 0 et moins 0,1, c'est l'épaisseur du trait. Hein. Oui. Si ça se trouve, les comptes seront révisés, on reviendra à 0 ou sera moins 0,2. Bon. Mais sur le fond, c'est vrai que la situation n'est pas bonne. Mais ben, dans tous les pays européens, ça c'est lié à l'environnement international, hein, oui. Pour l'essentiel.
L'Allemagne vient de diviser par deux sa prévision de croissance.
Récession technique, j'en sais rien. Je ne suis pas macroéconomie, je ne fais pas d'enquête de conjoncture. Mais ce n'est pas impossible, hein, oui. C'est-à-dire, récession technique, ça veut dire...
On rappelle la définition.
Voilà, c'est deux trimestres consécutifs avec une croissance du PIB négative. C'est possible. Après, je pense pas qu'on ait une croissance négative sur l'ensemble de l'année en moyenne, parce qu'on a quand même déjà
un acquis de croissance de 0,4.
La croissance a été quand même relativement forte à la fin de l'année dernière, donc ça porte l'ensemble de l'année. Maintenant, on peut très bien avoir une croissance très faible pour 2026 et 2027 aussi.
Oui, c'est ça. C'est donc de mauvaise augure pour l'année prochaine, en réalité.
C'est de mauvaise augure pour l'année prochaine, bien sûr.
Bon, et donc une campagne présidentielle sous forte pression.
Une internationale qui est vraiment un coup de massue sur la totalité de l'économie. Je suis pas très rassuré sur ce que sera le deuxième trimestre, parce que dans le deuxième trimestre, il y avait un mois de mai, et le mois de mai, avec l'ensemble des ponts que nous avons eus, c'était un quasi mois d'août. C'est une aberration.
Ça peut être bon pour la consommation, mais avec les prix du pétrole, ça risque d'être compliqué,
effectivement. C'est une aberration. Ce mois de mai est un... je sais pas, parler de courage politique.
Une respiration.
Non, mais c'est pas une question de respiration. C'est un dommage permanent infligé à notre économie. Ce sont des coups de fusil qu'on s'envoie dans notre propre pied. C'est épouvantable. Enfin, je pense qu'on a tous expérimenté ces semaines dans lesquelles aucune équipe n'est au complet. Il y a des vacances tournantes. Enfin, c'est invraisemblable. Donc, un premier trimestre qui probablement a été beaucoup impacté par la situation internationale et la situation sur le carburant, les problèmes d'acheminement de matières premières. Probablement, les choses vont se corriger dans peu de temps, mais je suis assez pessimiste sur le deuxième trimestre. Je pense néanmoins que ce que nous venons de décrire depuis le début de la matinée, c'est une situation économique extrêmement contrastée de notre pays, avec des atouts qui restent extrêmement importants. Et moi, je suis confiant sur le fait que s'il y a une récession, elle est purement technique, elle est conjoncturelle, et que globalement, nous avons des projets d'investissement qui sont extraordinaires et des innovations qui sont très, très porteuses. Maintenant, ça ne nous met pas à l'abri du conjoncture internationale qui est vraiment au rouge à peu près sur tous les voies.
Qui dépend évidemment du conflit au Moyen-Orient sur laquelle personne n'a la main. J'allais dire, Elisabeth, ces craintes de récession, on les a depuis la dissolution en réalité. Avant, c'était l'instabilité politique, et puis finalement, on a vu que l'année dernière, on avait fait un peu mieux que prévu. Bon, là, on voit que l'environnement international est très compliqué, mais est-ce que les entreprises, le grand talent des entreprises, c'est pas de s'adapter avec énormément de résilience aujourd'hui?
Moi, je dirais plus que les entreprises, je dirais les collaborateurs. Moi, je suis impressionnée par la qualité de résistance, de résilience, de volonté, d'engagement. Mais effectivement, dans un mois de mai comme celui qu'on vient de vivre, c'est absurde, parce que le travail, c'est pas un jour de travail, c'est une suite de choses dans laquelle une ligne. C'est-à-dire que quand on coupe les choses, et ben, ça ne passe plus rien. Un mois dans lequel on a eu 13 jours de travail travailler, c'est une absurdité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça est très très fragilisé, parce qu'il y a un concours de circonstances qui est quand même cette crise, je dirais, économique, politique très, oui. très grave, qui fait que, par exemple, nous avons du mal dans nos approvisionnements. Nos approvisionnements viennent plus tard, plus cher. Donc la première chose qu'on est obligé, c'est d'augmenter des stocks, parce que sinon, on ne peut pas tourner. Donc, si vous voulez, on est en train d'avoir le cumul de choses qui sont d'origine variée et qui sont plutôt d'origine de difficultés plus nombreuses et qui viennent juste après la hausse, par exemple, de toutes nos exportations vers les États-Unis. Donc, ce concours de circonstances négatives, effectivement, fait qu'actuellement, la vie économique est très dure. Moi, je me réfléchis comme entreprise européenne et pas oui. seulement française. Parce que je vois dans les entreprises, dans les entreprises...
Et c'est toute l'Europe qui souffre.
Et
pour le coup, c'est un choc exogène, cette crise au Moyen-Orient.
Dans un certain nombre des pays dans lesquels nous avons des filiales, des croissances qui sont bonnes. Notre filiale polonaise marche très bien. On voit des pays qui étaient considérés comme des petits pays oui. émergés très vite, et ces anciens pays de l'Est qui sont la Roumanie, la République tchèque, etc., sont des pays dont la vie économique actuellement est bonne, et on voit que le Portugal marchait bien aussi. Donc, c'est vrai, moi, je me réfléchis en tant qu'Européenne, mais c'est vrai que je trouve qu'en France, en ce moment, on sent bien qu'il y a une difficulté.
Bon, est-ce qu'il va falloir adapter notre trajectoire budgétaire à cette nouvelle donne économique, François Eckel? Comment s'annonce le PLF 2027 dans ce contexte?
Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais enfin, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que si le ralentissement d'activité reste limité, il faut tenir les objectifs de déficit, notamment le 5 points de PIB pour cette année. Voilà.
Limité, ça veut dire quoi? C'est 0,1, 0,2 points?
Oui, voilà, si on reste dans cela. Après, si, par exemple, je ne sais pas, la croissance cette année devait être zéro, quand on est face à une récession, tous les économistes vont dire, ce n'est pas le moment de faire de la consolidation budgétaire.
Oui.
Il faut laisser jouer les stabilisateurs automatiques, pas forcément prendre des mesures de relance dans tous les sens, mais au moins ne pas essayer de pas non plus faire des efforts considérables de redressement oui. des finances.
Ne pas geler les minima sociaux.
Et se rappeler que, par exemple, les règles budgétaires européennes mettent justement, pour cette raison-là, beaucoup plus l'accent aujourd'hui sur l'évolution des dépenses, pas sur les objectifs de déficit. Donc même du point de vue des règles européennes, du point de vue des marchés, etc., dans une situation, je dirais, de récession, pour simplifier un peu les choses, dans une situation de récession, on ne nous en voudra pas, personne ne nous en voudra d'abandonner nos oui. objectifs de déficit, à condition qu'on tienne nos objectifs d'évolution des dépenses. C'est ça qui est le plus important.
Et donc des dépenses sociales.
Et donc des dépenses sociales.
Oui, et moi, la très grande crainte que j'ai dans les circonstances économiques qui se sont dégradées, c'est que l'on fasse des mauvais choix et que ces mauvais choix...
On ressorte le carnet de chèques.
Mais que ça soit des mauvais choix qui auraient un effet sur le chômage. Pour moi, la crainte principale que nous avons à essayer de traiter, c'est de ne pas laisser repartir la courbe du chômage. Ça entraîne automatiquement des dépenses sociales nouvelles. C'est des petites économies à courte vue si ça provoque le redémarrage du chômage, et notamment sur des mauvaises décisions qui pourraient être prises sur les allègements de charges. Ça dégrade ensuite la totalité de la trajectoire. Je pense que s'il y a une chose que nous avons pu apprendre des crises précédente, c'est que si on accule les entreprises à faire l'arbitrage sur l'emploi, c'est absolument dévastateur oui. pour la totalité de la chaîne économique ensuite. Et donc, je suis très, très...
Ça reste le sujet fondamental, hein, remettre la France au travail.
C'est remettre donc la France au
travail. Chez les jeunes et les seniors, c'est là où le taux d'emploi pose problème.
Absolument, et la question aussi du traitement des retraités et de leur accompagnement, c'est aujourd'hui probablement en France que l'on a les retraités les mieux traités d'Europe ou du monde entier. Il y a peut-être là aussi des petites choses que l'on peut corriger pour ne surtout pas toucher à ce capital que nous avons fini par acquérir, qui est la baisse du chômage. Si on repart vers les 10%, je crois que c'est un désastre collectif pour notre pays et beaucoup plus qu'un désastre budgétaire.
Je voulais un dernier mot, François, sur la loi spéciale dont on entend beaucoup parler en ce moment. Pour ou contre, vous ? Une loi spéciale. On rappelle ce que peut être une loi spéciale hein, pour le budget. Grosso modo, on gèle tout.
On gèle tout.
Jusqu'à la présidentielle, mois par mois, on décaisse ce qu'on a fait l'année précédente.
Ouais, c'est une mauvaise chose.
On a tout. On a entendu tout et son contraire sur la loi spéciale. Ça peut faire des économies. Non, en réalité, ça coûte très cher. Est-ce que c'est un pis-aller avant
Ça permet de faire quelques économies à court terme sur le budget de l'État parce que les crédits sont gelés. Ça augmente l'impôt sur le revenu parce que le barème de l'impôt sur le revenu n'est pas indexé. En revanche, il se passe rien sur les dépenses sociales puisque à ce moment-là, le code de la sécurité sociale s'applique et donc il y a indexation automatique des retraites en particulier.
Donc là, ça veut dire que les dépenses sociales, par contre, peuvent s'envoler, surtout s'il y a de l'inflation.
Indexées, voilà, elles sont indexées comme sur l'inflation. Voilà, donc ça va nous coûter, l'année prochaine, ça va nous coûter assez cher. Donc, ça permet de faire quelques petites économies, mais qui n'ont, sur le budget de l'État, essentiellement sur le budget, uniquement sur le budget de l'État,
mais beaucoup de dépenses
sont,
sur la dette sociale,
qui sont très faibles par rapport à ce qu'il faudrait faire. Voilà. Et donc, il faudrait mieux avoir un vrai budget avec de vraies économies, etc. Et une loi de financement de la sécurité sociale avec alors des indexations ou je ne sais pas quoi.
Oui.
Voilà, des mesures sur les dépenses sociales. Donc, c'est pas terrible. En plus, ça entretient l'incertitude puisque s'il n'y a pas de budget, on ne sait pas finalement, les entreprises ne savent pas finalement quels impôts elles vont devoir payer, etc. Donc, pour les gestionnaires de finances publiques, c'est pas bon non plus parce qu'ils savent pas non plus quels crédits ils vont avoir, etc. Donc, c'est pas bon. Maintenant, moi, je suis prêt à faire le pari qu'on va avoir en effet une loi budgétaire spéciale jusqu'au mois de juillet.
Allez, le pari est pris. Bon, rendez-vous l'année prochaine pour ça. Merci à tous les trois. Elisabeth Ducoté, Léonidas Kalogeropoulos et François Eckel pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay.